Banque Centrale Populaire vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Émission spéciale sur RFI. Appel sur l'actualité est à Bamako. Juan Gomez.
Bienvenue à Bamako, à l'occasion du forum de haut niveau pour la sauvegarde des cours d'eau du Mali et de la Falémé, organisé dans le cadre des journées minières et pétrolières du Mali. Les mines, l'un des trois piliers de l'économie nationale, seulement voilà, la principale source de revenus d'exportation du pays pose de graves problèmes environnementaux. Pour vous donner un exemple bien concret, les cours d'eau du Mali et notamment la Falémé, l'affluent principal du fleuve Sénégal, sont menacés par l'exploitation minière et l'orpaillage, la qualité de l'eau se détériore avec des répercussions sur l'écosystème. Du coup, cette dégradation de l'environnement rend difficile d'autres activités qui sont également génératrices de revenus comme le maraîchage, la pêche et l'agriculture. Il me semblait donc pertinent à partir du Camalien d'élargir la réflexion à l'échelle continentale. Faut-il le rappeler, le sous-sol africain est riche, très riche, mais l'exploitation de ces ressources peut s'avérer être un désastre environnemental. Votez témoignages évidemment nous intéressent. Dites-nous si vous constatez des dégâts dans votre pays. Comment concilier défense de l'environnement et exploitation des matières premières? On en parle ce matin avec mes invités que je vous présente. Bonjour Madame Keita Aïdambo.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable du Mali de 2016 à 2019. Vous avez consacré plus de 20 ans de votre carrière aux questions de l'environnement et du développement durable au sein du PNUD, et votre expertise évidemment sera précieuse, d'autant que vous connaissez évidemment les réalités nationales mais aussi sous-régionales. À mes côtés, Ali Diarra, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de l'ONG Environnement Business Conseil, vous êtes un expert économiste de l'artisanat minier, vous êtes régulièrement sur le terrain, d'ailleurs vous revenez d'une mission aux côtés des orpailleurs, vous serez en quelque sorte la voix des orpailleurs ce matin sur RFI. On a envie de comprendre évidemment dans quel état d'esprit ils sont. Adama Sambou Sissoko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du blog Le Journal Vert du Mali, spécialisé sur les questions environnementales. Avant de passer au standard et de recueillir les premiers témoignages, Madame la Ministre, peut-on qualifier de désastre écologique, de scandale environnemental, l'exploitation artisanale de l'or dans votre pays, ici le Mali?
Merci beaucoup. Je pense que vous l'avez dit. Malheureusement, le constat, c'est ça. Nous avons vraiment un désastre environnemental depuis quelques années. Il y a des efforts qui sont faits par tout le monde, on va dire l'État, la société civile, les populations elles-mêmes, mais la situation est dramatique. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut des mesures aussi dramatiques et il faut que tout le monde s'implique.
Vous dites il faut, vous avez été aux affaires. Vous étiez encore ministre de l'Environnement il y a 2 ans.
Oui, c'est une bonne question parce que vous savez, chacun a sa méthode. Et je peux vous donner plein de cas où, quand nous avons eu à faire des missions sur le terrain, nous avons constaté que, par exemple, les dragues, les gens avaient fui. Il y a le cas de Sélingué. Mmh. J'ai commis une mission, on va dire, impromptue. Et quand on est allé sur le terrain, il y avait près de 150 dragues dans le fleuve Sankarani, à 6 km du barrage de Sélingué. Mais quand je suis arrivé, il y avait 150 dragues, mais il n'y avait personne dedans. Oui. Comment vous expliquez ça? Ça veut dire que quelque part, les gens ont peur. Mais il faut vraiment pouvoir appliquer.
Les gens ont peur et il y a des informateurs, il y a des gens qui préviennent.
Ah,
attention,
oui.
Madame la ministre arrive, donc il faut évacuer les lieux. Ça veut dire qu'il y a peut-être, excusez-moi, des complicités au sein même du ministère.
Je vais vous dire qu'il y a des complicités partout parce que la veille, nous sommes arrivés à 22h le soir. On a demandé où est-ce qu'on partait exactement sur le fleuve. On ne l'a pas dit, mais quand on a débarqué au niveau du port, nous avons trouvé les pirogues qui étaient là et nous avons fait cette mission avec la télé nationale et beaucoup d'autres, une équipe de 50 personnes, et nous avons fait ce constat. Ça veut dire que c'est possible de faire déguerpir les gens de ces cours d'eau.
Alors, l'émission est exceptionnellement enregistrée, mais depuis la semaine dernière, vous avez pu vous inscrire sur nos réseaux sociaux pour nous livrer vos témoignages et dialoguer avec nos invités. Certains d'entre vous sont déjà en ligne. Je voudrais qu'on accueille Issa. Issa est originaire de la région de Kaï. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Kaï, vous disiez au Standard, région où les conséquences environnementales de l'extraction aurifère se ressentent au quotidien.
Effectivement, et chez nous, c'est un désastre environnemental, tant au niveau des cours d'eau qu'au niveau de la forêt. Chez nous, c'est plus qu'un désastre, Juan Gomez, parce que vous allez constater au niveau de Falémé chez nous, par exemple, oui. Dans la région de Kaï. Falémé, c'est un pays à la frontière entre le Mali et le Sénégal.
Et c'est un fleuve aussi. C'est
au niveau de Falémé, oui, c'est un fleuve, oui. Au niveau de Falémé, aujourd'hui, nous assistons à un affablement majeur du fleuve. Tout simplement, c'est dû au fait de l'exploitation minière, notamment par DRAC. DRAC, c'est une exploitation artisanale dont Madame la ministre vient d'évoquer. Et même au niveau de la terre, du sol, et là encore, ça ne va pas, parce qu'il y a une exploitation qui ne dit pas son nom. Partout, vous trouvez des trous, des fossés qui sont crevés. Au risque même, pendant la saison hivernale, si vous vous aventurez, vous risquez de tomber dans un trou et de perdre votre vie.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, les orpailleurs creusent et creusent le fond des rivières. Il y a Abdou qui nous écrit lui aussi de la région de Kaï sur WhatsApp et il dit « Tout est troué, partout on trouve des trous mesurant jusqu'à 30 mètres de profondeur. Pourquoi n'existe-t-il pas de politique consistant à reboucher les trous après avoir extrait l'or ?» Et ces trous, on les fait comment, Issa ? Racontez-nous, vous qui êtes originaire de cette région et qui voyez au quotidien ce qui se passe.
Vous savez, les trous sont crevés d'une façon anarchique, il n'y a rien pour réguler ce secteur. C'est un peu une forme de corruption, une complicité entre tout le monde là-bas. Souvent, les locaux sont impliqués, il y a les représentants de l'État qui sont dans le coup. Et tout le monde est impliqué dans ce système. Finalement, ça profite à une minorité qu'à une grande majorité. Mmh. Aujourd'hui, je pense que la première chose à faire, c'est d'identifier au moins les membres de ceux qui pratiquent cette exploitation de façon artisanale.
Oui. Ali Diarra, attendez, Ali Diarra est à mes côtés, il est régulièrement au contact des orpailleurs. On ne les connaît pas, ces exploitants illégaux ou traditionnels ?
Oui, on les reconnaît effectivement, on les reconnaît. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est que pendant très longtemps, il faudra, la législation malienne a été silencieuse par rapport à l'évolution de cette activité. L'orpaillage, effectivement, c'était géré, ça ne causait pas de tort à l'environnement. Maintenant, l'activité est devenue mécanisée, donc là, au lieu de l'interdire ou dire que ça avait posé des dégâts, on aurait dû anticiper sur ces problèmes. Mécaniser, mais sous quelle forme ? Encadrer sous quelle forme ? Encadrer, c'est amener l'activité dans un périmètre bien limité qu'on appelle corridor. En ce moment, on allait faire ce qu'on appelle une activité minière artisanale responsable. Là, on n'allait pas poser de dégâts causés par l'environnement.
Là, c'est l'anarchie, on a l'impression, Ali Diarra.
Oui, il faut le reconnaître. De nos jours, l'activité pose d'énormes problèmes sur l'environnement.
Oui, et des gros problèmes parce qu'on utilise des produits chimiques. Issa, vous les voyez, ces produits chimiques, dans les rivières de Kaï et notamment dans la Falémé ?
Nous voyons effectivement les conséquences de ces produits chimiques, et notamment les cyanures qui sont constamment utilisés. Et les mercures, on n'en parle pas. Et par endroits, les sols ont pu cultiver la terre. Et par endroits, les animaux meurent. Et donc, et par endroits, l'eau devient même inconsommable. Donc là, ces produits chimiques ont des effets très néfastes sur la population.
Oui, Adama Sambo-Sissoko, comment expliquer qu'on utilise du mercure, du cyanure ?
L'explication en est simple, car ceux qui utilisent ces produits, des fois, ils ignorent les conséquences que ces produits peuvent avoir et sur l'environnement et sur leur propre santé. La corruption également est passée par là. Tout récemment, on était à Kenyeba pour un forum sous-régional sur la Falémé et qu'on a eu des révélations là-bas. Les exploitants non maliens, c'est-à-dire des Burkinabés, des Chinois qui sont dans la zone précisément de la Falémé, ils passaient par les maires et les chefs de village. Maintenant, ils sont allés plus en bas. Ils vont aller négocier, acheter des terres avec des chefs de famille qu'ils exploitent. Donc, partant de là, un paysan qui n'a jamais eu 1 million dans sa vie, on vient, on lui propose en une seule matinée 20 millions.
On lui propose 20 millions, ils achètent des terres et ensuite ils vont exploiter illégalement ces sous-sols. Je dis illégalement parce qu'il n'y a pas d'autorisation de l'État, si je comprends bien. Là,
bien
c'est
sûr.
Une autorisation simplement du paysan qui a vendu sa terre.
Effectivement.
Oui. Alors, je voudrais qu'on repasse au standard pour qu'on comprenne bien cette problématique malienne et panafricaine. Cyril, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tout le monde.
Vous êtes en Centrafrique à Bangui, la Centrafrique où vous disiez au standard, les produits chimiques sont également déversés dans les cours d'eau.
Oui Juan, effectivement c'est très malheureux parce que en RCA par exemple, le gouvernement centrafricain a donné des permis d'exploitation des ressources naturelles, principalement de l'or, aux entreprises chinoises, permettez-moi, dans la localité de Luang et de Luangpendé, précisément dans la ville de Bozoum. Où il y avait quatre entreprises chinoises qui ont reçu donc des permis d'exploitation des mines d'or. Et je disais qu'on s'est rendu compte très rapidement que le mode d'exploitation s'est transformé en un bradage des ressources naturelles, entraînant donc une véritable catastrophe écologique et aussi une menace pour la santé publique.
Oui.
Je voulais dire que dans la localité de Bozoum, où on exploitait de l'or en utilisant des produits chimiques, aujourd'hui, on constate une extermination des espèces aquatiques telles que les poissons, également les hippopotames. Mais également, on se rend compte que les poissons deviennent de plus en plus rares et de plus en plus chers dans la localité.
Oui.
Et
alors, Cyril, vous avez parlé des entreprises chinoises. Ce n'est pas la première fois que, les Chinois sont cités dans cette émission. Madame la ministre, ils sont pointés du doigt à tort ou à raison?
Vous savez, le constat, il faut le faire sur le terrain parce que officiellement, il n'y a pas beaucoup de sociétés chinoises qui demandent l'autorisation de s'installer. Elles sont cooptées par des Maliens, donc ce sont des sociétés qui sont dirigées par des Maliens et qui vont sur le terrain et malheureusement, elles ne sont pas contrôlées. Elles prennent des permis d'exploration, mais dans le constat, elles sont dans l'exploitation. Mmh. Il n'y a pas encore longtemps, il y a moins de 3 mois, j'ai été faire des constats au niveau de Narena. Nous avons constaté une série de sociétés qui sont dirigées par des Maliens, mais en fait, ce sont des Chinois qui sont sur place et qui exploitent les ressources en tant que telles.
Et on ne peut rien faire.
Les dégâts environnementaux sont terribles. Nous avons fait les constats, nous avons fait des rapports, nous avons même fait des constats d'huissiers, etc. Les procédures sont en cours. Les préfets, les autorités, tout le monde a été saisi.
Et les dégâts sont terribles. On revient toujours à ces fameux produits chimiques, le cyanure, le mercure, l'alidiara. Ce sont des produits qui, visiblement, en plus, sont introduits clandestinement au Mali.
Je parle sous le contrôle de Madame la ministre de l'Environnement. Et effectivement, ces produits-là rentrent dans le cadre d'une voie ou des voies frauduleuses. Et puisque je suis un des acteurs qui a participé à faire l'inventaire du mercure dans l'artisanat minier au Mali, donc on a essayé de retracer effectivement l'origine de ces produits chimiques.
Alors ils viennent d'où?
Ils viennent, le Mali est ravitaillé à partir du Burkina Faso et le Burkina à partir du Ghana. Donc ça c'était la ligne directe qu'on a pu tracer. Mais indépendamment de ces circuits-là aussi, par un fait du hasard, tous les sites d'orpaillage font frontière avec des pays, soit le Sénégal, soit la Guinée, soit le Burkina Faso, soit la Côte d'Ivoire.
Et donc le mercure, le cyanure traversent clandestinement ces frontières. Est-ce qu'on a une idée? Alors là, je vous pose peut-être la question à 100 millions de dollars. Est-ce qu'on a une idée des quantités de cyanure et de mercure qui sont utilisées ici au Mali, à peu près? Est-ce qu'on a des estimations? Madame la ministre dit non. Ali Diarra, vous avez un chiffre?
On a un chiffre je me réfère au document du plan d'action national qui a été adopté en 2019 précisément, récemment, et dont on parle de plus de 28 tonnes de mercure émises par les artisans miniers.
28 tonnes de mercure chaque année. On va repasser au standard, on a des témoignages, on a écouté un premier auditeur du Mali, un autre de Centrafrique. Tiens, on parlait de la Guinée il y a quelques instants. Mamadi, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes justement originaire d'une région minière, si j'ai bien compris.
Absolument. Je suis de la Guinée, surtout de Koumsa, mais je fréquente la région de Dingiraï,
qui
est une zone d'extraction minière. Surtout à Matakanya, la sous-préfecture qui est réputée être la sous-préfecture d'exploitation artisanale à grande échelle.
Et là, vous constatez des dégâts, Mamadi?
Absolument. Le constat est tellement clair que nous constatons la détérioration de l'état de l'environnement, la destruction et la pollution de l'eau par les cyanures et le mercure, ils sont utilisés par les exploitants artisanaux de l'or, et ça a des conséquences sur les animaux et l'élevage qui se passe dans le milieu. Actuellement, il y a la coupe abusive de bois, il y a la destruction du couvert végétal. Ça, c'est tellement visible parce qu'il n'y a que des surfaces à perte de vue que nous constatons. Pas d'arbres, il n'y a que des arbustes maintenant.
Oui.
Et si avant c'était des forêts, actuellement ce n'est plus des forêts.
Oui. C'est ça qui est triste, Mamadi, en vous écoutant, et tout le monde autour de la table est d'accord, Madame la Ministre. On exploite de l'or parce que, effectivement, c'est une richesse, une vraie richesse pour le pays. Hein, je le disais tout à l'heure, 70% des exportations minières du pays, ici au Mali, c'est de l'or. Mais en même temps, voilà, on détruit la végétation, on détruit le couvert végétal, il n'y a plus d'arbres.
Tout à fait. N'oublions pas également les cours d'eau. Le fleuve Niger, par exemple, c'est le troisième fleuve le plus important d'Afrique qui est en train de se détruire à cause de ces problèmes d'orpaillage, de ces dragues qui sont sur le fleuve. Malheureusement, il faut pouvoir... Et les populations elles-mêmes doivent comprendre que la sauvegarde de l'environnement, c'est d'abord pour elle. Malheureusement, ce mécanisme n'est pas assez compris et l'exploitation qui est là, elle est anarchique, mais souvent aussi il y a des complicités des populations. On parle de complicité des autorités communales, etc., administratives, mais il y a aussi la complicité des populations qui, comme ça a été dit par M. Diarra, n'ont pas l'habitude de recevoir des montants importants. Donc, elles préfèrent avoir des montants importants et la sauvegarde de l'environnement vient en second plan.
Ouais, la dégradation de l'environnement, c'est un mal nécessaire pour ces populations qui vivent dans les zones minières, Adama Sambou Sissoko ?
Évidemment, dans la mesure où cette dégradation ne porte pas seulement atteinte à la végétation et aux produits halieutiques, mais aux terres agricoles. On est dans une zone de production agricole. Sans terres agricoles, il n'y a pas d'éducation. Sans terres agricoles, il n'y a pas de santé. Santé agricole, il n'y a même pas de stabilité au sein des foyers. Donc, c'est toute la société qui se trouve ébranlée à partir de cette mascarade qu'on est en train de porter à l'environnement.
Alors, c'est une mascarade pour l'environnement, mais Ali Diarra, c'est une source de revenus. Il y a de plus en plus d'orpailleurs.
Exactement.
Et on a une idée du nombre d'orpailleurs au Mali?
Oui, je pense que le plan d'action même...
Alors donnez le chiffre, allez-y, quel est le chiffre?
Ça tourne autour, ça fait les 10% de la population malienne qui sont liés directement ou indirectement à cette activité.
D'accord, donc ça veut dire que 10% de la population malienne vit grâce...
Direct ou indirectement...
à l'orpaillage. Madame la ministre, vous validez ce chiffre? Moi j'ai entendu parler de 500 000 orpailleurs qui font vivre des millions de personnes au Mali.
Les orpailleurs font vivre un grand nombre de populations, ça c'est incontestable. Mais je pense que ce qui est important à retenir de mon point de vue, c'est quand même de se rappeler qu'il y a un code minier qui existe maintenant, qui a été revu depuis septembre 2021, et depuis 2019, pardon, et qui donne une voix prépondérante aux populations elles-mêmes pour s'impliquer dans tout ce qui concerne l'exploitation minière dans leur zone. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a des dispositions à prendre pour que au moins elles en profitent un peu mieux. Le problème, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, les populations elles-mêmes n'en profitaient pas assez. Donc les textes sont là pour les protéger d'une certaine façon. Et même les textes sont là également pour la protection de l'environnement. Il y a toutes les études d'impact environnemental et social qui doivent être faites, accompagnées d'un plan d'action.
Les textes sont là, Madame la Ministre, mais ils ne sont pas respectés sur le terrain.
Je suis d'accord avec vous, c'est là où le bât blesse. Et ça, c'est pas seulement en matière d'environnement, ça c'est dans beaucoup de pays africains. Mais justement, qu'est-ce que la société civile peut faire? Et c'est là où nous en venons à la citoyenneté. Il faut vraiment des citoyens engagés. Et là, par rapport à ça, nous avons un travail à faire d'information, de sensibilisation. Les paysans, ils voient, c'est sûr, leur gain qui est diminué. Ils ne peuvent pas faire l'agriculture, il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de forêt, etc. Donc, beaucoup se rabattent sur l'orpaillage en se disant que je vais avoir un gain immédiat, sans penser au futur immédiat ou bien au long terme.
Je vous propose de marquer une pause, de retrouver la rédaction à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin et nous revenons dans 10 minutes avec nos invités et vos réactions. À tout de suite.